Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood et tout.
Tu peux ressembler à un de tes frères, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robinson Crusoe, il ressemble à rien, enfin, il est cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Bah non, je sais pas.
Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir le très bel univers du créateur belge Édouard Vermeulen, qui dirige la maison Nathan depuis 1983.
C'est bien exact.
Et qui habille la famille royale de Belgique, quand même. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Alors, vous êtes diplômé en architecture d'intérieur.
C'est vrai que c'était le départ dans le milieu artistique, c'est d'avoir fait mes études d'architecte d'intérieur. Et j'adorais faire ça. J'ai débuté, après mes études, un bureau d'archi, mais surtout un peu les objets, la déco.
Non, mais il y a un lien direct avec Nathan, avec votre premier bureau.
Parce qu'en fait, j'étais à la recherche d'un espace pour pouvoir présenter mes objets et mes choix. En me baladant, je trouvais un bel hôtel de maître et je me dis pourquoi pas rentrer, me renseigner. Et puis j'ai demandé à la propriétaire, est-ce que vous n'auriez rien à louer dans l'immeuble? Elle me dit non, pourquoi vous me demandez ça? Vous voyez bien qu'il n'y a rien à louer. Puis je me dis oui, mais bon, on ne sait jamais. Elle me dit tout est loué à part le hall. Mais je dis est-ce que je ne peux pas vous louer le hall? Et c'est ainsi que je suis vraiment arrivé dans une ancienne maison de couture qui s'appelait Jacqueline Léonard, ancienne maison Paul Nathan. Pour simplement vous dire que la maison Paul Nathan a créé la maison entre les deux guerres. Mmh. Et il n'y avait pas le prêt-à-porter à cette époque-là. Donc, au fait, il y avait à Bruxelles beaucoup de maisons de couture qui portaient le nom des personnes qui l'exploitaient. Mmh. Donc là, en l'occurrence, c'était Paul Nathan. Au décès de ce monsieur, ça a été repris. Et puis, c'est une Madame Léonard à qui j'ai travaillé un an, qui avait repris. Et on indiquait encore à ce moment-là, à la reprise d'une maison, on mettait ANC. Ancienne maison. Mm-hmm. Oui, c'était pour retransmettre la clientèle, si je puis dire. Et mon bureau de déco s'était ouvert là. Et ravi d'être sur l'avenue Louise, qui était...
C'est une des plus grandes avenues de Bruxelles. Mais
c'est une avenue, en tout cas, qui est connue et reconnue. Et c'est ainsi que mon espace déco était, assez bien visité parce que la situation était une situation
de
passage.
C'est un très bel immeuble. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est très beau. Mais alors, comment vous en êtes arrivé à devenir le créateur? Oui.
Mais donc par hasard, c'est comme quoi, c'est vraiment les concours de circonstances. Là, cette dame qui avait un âge tout à fait respectable me dit à un moment, écoutez, vous êtes mon sous-locataire, nous allons cesser les activités et donc vous devez ou reprendre le bail, mais en tout cas le bail de sous-location s'arrête ici puisque nous quittons les lieux. Et alors je dis, petite hésitation, je me dis pourquoi pas reprendre tout le rez-de-chaussée et de mettre la déco hein, sur un peu plus d'espace. Et ainsi fait, les premiers clients qui viennent et qui rentrent me disent « Ah, oh, mais tiens, je me souviens à l'époque, il y avait des vêtements et il n'y a plus de vêtements. » Non, mais j'ai dit « Bon, une, deux, trois, quatre fois, on vous pose la question. » Et puis, on est venu à l'idée de dire « Bah, j'avais 24 ans à ce moment-là, je me dis pourquoi on ne ferait pas quelques vêtements et de les mettre dans notre espace déco ?» et de présenter ça aux clients éventuels qui demandent, ou qui ont encore la nostalgie du vêtement. Et
donc
c'est ainsi que ça a débuté.
Vous avez repris les archives ?
Alors, j'ai repris les archives, ben, il y avait l'atelier, donc cette personne, Madame Léonard, était en fin de carrière, ainsi que son équipe. Donc, ce n'est pas encore tellement les archives, c'est le nom. Parce que je trouvais Edouard Vermeulen, comme je faisais la déco, je m'étais dit, je ne voudrais pas avoir deux fois le nom, puis Vermeulen, c'est assez difficile à prononcer. Puis je trouvais que Nathan, N-A-T-A-N, ça se lisait facilement et ça se retenait facilement. Puis comme les gens me disaient, oh, mais il y avait la maison Nathan dans le temps. Mais évidemment, maintenant, ça a moins de sens, 40 ans plus tard. Mais
c'est une transmission.
Une transmission et que c'était encore dans la mémoire des gens que c'était une maison de couture.
Vous avez toujours été passionné par la mode ?
Je trouve que la mode et la déco ont deux choses très semblables. Je pense que chaque couturier aime la déco et dans le sens les volumes, les matières, les couleurs. Prédisposé, non, mais ça m'a toujours intéressé et amusé de voir, évidemment. De nouveau, il faut aller 38 ans en arrière. Il n'y avait pas cette effervescence autour de ces fashion week et de la mode comme il y a aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais je pense que je n'aurais jamais fait la couture, ou en tout cas si je n'avais pas côtoyé une maison de couture.
Est-ce que, par exemple, vous avez une maman ou une grand-mère qui vous a transmis parce que vous avez le goût des belles choses.
Oui, ça c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre un peu dans un environnement. Encore l'autre jour, ma mère disait, ta grand-mère, bon, nous habitions la Belgique, et ma grand-mère venait deux fois par an à Paris pour s'habiller. Et parce qu'elle avait un membre de sa famille qui habitait Paris et qui côtoyait un peu les couturiers. Et alors, ma grand-mère, à cette époque-là, ils auraient 100 ans de mariage, on m'a dit, le week-end dernier. Donc, vous imaginez qu'il y a longtemps. Et c'est resté, ma mère aussi.
Vous avez eu un goût.
Oui. Et on a toujours eu un contact avec Paris, parce que mes parents, ma mère venait à Paris accompagner sa mère.
D'ailleurs, pourquoi elle venait à Paris ? Parce qu'il n'y avait pas de...
Mais parce qu'il n'y avait pas, au fait, il y avait, avant même le prêt-à-porter, mais même le début du prêt-à-porter, au fait, il fallait aller pour nous, en tant que Belge, il fallait faire Paris, puis... Quand il y a eu le prêt-à-porter, ça s'est un tout petit peu aussi déplacé vers Lille, mais Bruxelles n'est venue que par après, aux ouvertures des boutiques de prêt-à-porter internationales.
Alors, qui est la femme Nathan ?
Alors, la femme Nathan, pour moi, est une femme dynamique, contemporaine, qui aime les volumes simples, c'est une femme chic, c'est une femme qui aime la couture, c'est une femme qui aime les belles matières. C'est une femme qui veut aussi une forme d'intemporel
de transmission aussi.
Oui, je pense que c'est important parce que aujourd'hui, la mode est très créative, mais elle est parfois pas toujours portable. Et comme nous adressons, en fait, la femme Nathan est une femme de 40 à 70 ans, donc elle peut être plus jeune, mais parce que je pense qu'il y a les générations se sont un tout petit peu confondues. On se rend compte que les mères et filles, très souvent, ont des choix semblables, ce qui n'existait pas il y a 30 ans. Mais je trouve amusant d'avoir ce côté de différentes générations pour différentes circonstances. C'est surtout pour moi, le côté contemporain dans les formes qui est important.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous appelez contemporain dans
les formes?
Alors,
contemporain, c'est d'abord le choix des matières, puis l'association des couleurs, peu d'imprimés, beaucoup d'unis, et puis un peu recréer les volumes, mais aussi bien dans le pantalon que la robe, toujours empreint d'une idée de couture. Parce qu'en fait, mon inspiration, depuis le départ, est pour moi Monsieur Cristobal Balenciaga et Monsieur Dior.
Je vais vous demander, vous avez anticipé ma prochaine question.
Ah non, mais c'est vrai que j'ai beau vivre dans le milieu de la mode, je n'ai jamais quitté mon ADN. Parce que j'ai toujours voulu qu'il y ait un côté couture, un côté féminin, et voilà, c'est de rendre la femme belle, et voilà, ça c'est pour nous très important.
Et est-ce que vous avez d'autres inspirations, si vous vous asseyez à une terrasse de café?
Oui, l'inspiration de la rue, de voir ce qui se porte. Malheureusement, on ne peut plus trop s'inspirer de la rue, mais malgré tout,
pourquoi?
Il faut voir. Mais parce que je pense que la rue, aujourd'hui, a une forme d'uniformité. On porte des jeans, des sneakers. Il n'y a plus tellement ce côté glamour dans la rue qu'il y avait à l'époque.
C'est vrai que j'ai pas vu de denim dans votre présentation.
Il y a un tout petit peu, parce que, de toute façon, on ne peut pas passer à côté, mais il y a aussi le côté denim habillé, des pantalons un peu larges avec des spencer, parce que je trouve qu'on ne peut pas du tout, et je ne veux en aucun cas que c'est une connotation sportswear. Ça doit être de l'habillé portable, parce que les gens aujourd'hui, c'est pour ça que je disais un peu intemporel, parce que les gens, quand ils mettent un budget même raisonnable, je pense que la femme aujourd'hui a envie de porter son vêtement, ne veut pas un vêtement éphémère, veut justement la possibilité de le porter de différentes façons, mais disons avant tout, oui, une image élégante, et j'insiste fort sur l'élégance, parce que c'est pas que ça disparaît, chacun a son élégance comme il l'interprète, mais je veux surtout que les matières soient belles et que l'étude de la couleur et l'étude des volumes.
Et des volumes, des formes. Alors, vous habillez la famille royale, vous avez même reçu le titre de baron.
Exact, j'ai eu ce grand privilège de recevoir le titre de baron des mains du roi, parce qu'en fait, vous recevez l'être justement de baron, où vous avez votre blason, et c'est, disons, un moment émotionnel dans ma carrière, parce que c'est un titre, j'en suis disons très flatté, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu mon contact depuis, je pense qu'il y a 30 ans que je travaille pour la famille royale.
Ils sont sympas, la famille royale.
On s'entend quasiment bien, ce sont surtout ma troisième génération.
Vous êtes habilleur officiel.
Oui, c'est-à-dire qu'au fait on reçoit le titre de fournisseur de la cour. Et fournisseur de la cour, c'est maximum une à deux personnes dans le secteur. Parce que sinon, c'est un peu difficile. On ne peut pas, disons, tous les couturiers ou tous les fournisseurs de la cour, peu importe quel métier ils font, ne peuvent pas être fournisseurs de la cour. Parce qu'il y a une charte qui dit, c'est un choix établi par la maison royale.
Est-ce qu'il y a une charte pour la longueur, une demande précise pour la longueur des robes?
Non, je vous dirais que aujourd'hui notre reine, c'est comme la reine des Pays-Bas, la reine Maxima, ce sont des femmes contemporaines, elles portent la mode. Évidemment, il y a il faut s'adapter un peu à des normes simplement, mais pas vraiment. C'est parce que la mode est un peu en dessous du genou. Comme dit la reine, que ce soit en été, on porte son manteau. On ne va pas peut-être mettre des décolletés ou des choses qui sont trop marquantes.
Juste dans le respect du protocole.
Mais il n'y a pas. On ne peut vraiment pas dire qu'il y ait des directives. C'est surtout des directives. D'abord, garder la personnalité de la femme et de se retrouver dans une élégance contemporaine, pas plus que que la plupart de mes clientes.
Mmh. Vous la considérez comme une femme normale?
Oui, parce qu'elle veut être considérée, elle suit la mode. C'est comme la reine d'Angleterre, il y avait la reine Béatrice des Pays-Bas. Disons, cette génération-là termine ces codes-là d'être connue avec un vêtement, je veux dire, propre à elle. Aujourd'hui, quand on voit les cours européennes, elle porte la mode.
Elle porte même du Zara.
Oui, parce que voilà, elles sont
jeunes. Je pense à la reine d'Espagne.
Elles sont jeunes, elles veulent suivre la mode malgré le protocole.
J'ai eu la chance de visiter vos ateliers Avenue Louise. Donc, expliquez-nous comment vous faites, comment vous préparez une collection.
Mais tout d'abord, notre collection, le départ, c'est au fait, quand je dis la foire à Paris, Première Vision. C'est la foire de textile, le nom l'indique, Première Vision, c'est les matières, les tissus, puis notre recherche de palettes de couleurs, puis notre choix de matières. Dans les différents secteurs, imprimés, unis, maintenant c'est notre collection d'été, ce sont les cotons, ce sont les matières d'été. Et ce que nous avons présenté, c'est voilà, nos quelques imprimés qui sont faits exclusivement pour nous, notre choix de couleurs. Au départ de cela, on crée les formes. Alors, mais très souvent, ce sont faits, pour moi en tout cas, on travaille sur buste. Parce qu'un croquis peut être vraiment le point de départ, mais c'est surtout sur buste qu'on se rend compte de ce qu'on veut réaliser pour travailler essentiellement le volume. Puis, il y a le modélisme. Mm-hmm. Donc, une fois que la pièce est, disons, un peu présentée sur buste, la modéliste voit à ce moment-là pour faire le patron, ce qu'on a fait le patronage. Puis, d'après le patronage, on coupe la pièce dans un calicot. Le calicot est essayé sur mannequin, puis d'après le rendu du calicot, on se dit, au fait, ce modèle-là serait bien approprié pour telle ou telle matière.
Donc là, vous avez une fabrication européenne?
Oui.
Il y a une vraie traçabilité?
C'est très important parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus sensi, même la nouvelle génération, c'est d'avoir des produits européens fabriqués en Europe et tout le monde connaît la provenance et on insiste fort. C'est pour ça que vous avez l'occasion de visiter nos ateliers aussi. On a des ateliers même à Bruxelles qui sont au rez-de-chaussée, visibles par les passants pour vraiment montrer le savoir-faire et un peu contrecarrer ce fast fashion.
Mais vous n'aimez pas trop la fast fashion. Hein.
Mais je trouve que ce qui est positif dans la fast fashion...
Il
faut du positif en tout. fast fashion, ce que je trouve bien, c'est que c'est accessible par tout le monde. Mm. Et ça, je trouve important que la mode ne soit pas quelque chose qui soit un privilège. Ça doit être porté par tout le monde. Ce que j'aime moins, c'est qu'on ne connaît pas la provenance. On est fort dans l'éthique des matières, dans l'éthique de la façon de se fabriquer. Là... C'est un peu difficile de juger la bienveillance de chaque produit. Puis, je pense que nous sommes malheureusement un peu un secteur assez pollueur. Donc, je pense qu'un vêtement comme à l'époque qui est porté, qu'on porte... moi, parfois, il y a des clientes qui me disent « Oh, j'ai encore un ensemble d'il y a 10 ans. » J'écoutais même, c'est bien de penser à la planète, mais il faut aussi penser à nous. On ne peut pas porter les vêtements trop longtemps, mais j'en suis ravi parce qu'un client satisfait, un client qui revient et qui a usage de ces vêtements dans la mémoire, a le respect de...
Respect et fidélité.
Oui, respect, fidélité, et que dans la fast fashion, c'est un peu le facile à mettre, le changer, Mais ça fait partie de notre société.
Et il faut faire avec.
Faire avec, et que ça existera toujours. Mais j'étais étonné de voir la réactivité parfois des jeunes à ce niveau-là qui me disent « Oh oui, j'achetais tout par e-commerce, mais maintenant, je me rends compte que j'ai envie de toucher matière, j'ai envie d'avoir quelque chose peut-être de plus
c'est
élégant. »
C'est récent, cette prise de...
C'est, je dirais, 2 ans.
Oui, donc avant la pandémie, parce que j'allais...
Avant la pandémie, déjà avant la pandémie.
Ouais, déjà, parce que là, on avait eu l'occasion d'échanger sur la mode de l'après-pandémie. Est-ce que vous croyez que tout ça a bouleversé?
Mais ça, pas que ça
on
a bouleversé.
On est dans le monde de l'après.
Mais
là,
on est quand même dans des choses, je crois, le climat, la planète joue énormément. J'étais sidéré l'autre jour de voir, parce que bon, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a de plus, entre guillemets, bon, je n'ai pas fait l'analyse moi-même, mais de plus polluant, c'est par exemple tout ce qui est jeans, que ça demande tant d'eau. Pas tellement ça, mais la consommation d'eau est gigantesque pour teindre des cotons, pour teindre, pour laver, pour délaver des jeans et tout. Et je me dis, bon, ça, parfois, ça devrait être su, parce qu'on pourrait un peu arrêter le jeans, le sneaker, le ci, le là, en sachant que si vous défendez, disons, les normes actuelles de la défense de l'environnement, ben, il faut le réfléchir du début jusqu'à la fin, parce qu'il faut quand même rester cohérent.
C'est intéressant ce que vous dites. Et vous avez développé le cuir vegan ?
On a développé le cuir vegan parce que le cuir a quelque chose qui a fait partie toujours de la mode, pas que dans les accessoires, mais aussi dans la veste, la jupe, le pantalon. Et le cuir vegan, justement, est aussi dans le bon vouloir de la défense du cuir, malheureusement, que nous mettons encore peut-être en chaussures ou en sac, mais en tout cas en vêtements, de moins en moins. Et vous avez d'abord, c'est végétal et c'est… Pardon,
je vous ai coupé. Vous avez retiré le cuir de toutes vos collections ou pas?
Nous faisons encore, mais très, très, très peu de cuir, parfois pour la couleur, parce qu'en fait, l'avantage, de nouveau, c'est du cuir, c'est que parfois pour des petites pièces, vous avez la profondeur et vous avez la possibilité de teindre du cuir que du vegan, beaucoup moins, parce que c'est fait en beaucoup plus grande quantité. Les pigments ne sont pas les mêmes, donc on est lié à des choses, à des contraintes, mais bon, qui ne, pour nous ne sont pas vraiment contraignante, parce que on ne va pas toujours tout porter en haut, en couleur. Autant j'aime la couleur, parce que c'est vrai que mon noir est le marine, j'adore le blanc, mais la couleur est quelque chose que la femme aime porter, pas vraiment au quotidien, mais quand c'est un vêtement un peu habillé, pour des circonstances, on se rend compte que la femme, en tout cas du Nord, envie de couleur.
Ah, la femme du Nord.
Mais je pense que c'est le manque de lumière. Quand vous regardez la mode italienne, est fort différente de la mode parisienne, de la mode américaine, parce que je pense que le climat et la lumière intervient dans la couleur. Pourquoi est-ce que les tons sont couleur terre, végétale, plus dans le Sud que les couleurs sont plus franches dans le Nord, parce que je pense que c'est le manque de lumière qui fait qu'on a envie d'avoir de l'éclat par la couleur. Et c'est aussi par le teint, parce que vous parliez de nos reines, la reine Maxima, par exemple, qui est venant d'Amérique du Sud, elle a un teint où elle peut porter des tons, justement les tons à l'italienne, les tons terre et tout, que notre reine Mathilde, mais elle a plutôt les rouges, les bleus, parce qu'elle a une incarnation qui est plus claire, donc elle porte plutôt des tons totalement différents. Donc ce n'est peut-être pas que le climat, c'est aussi la femme et son
environnement, c'est une globalité. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez d'élégance. Quelle est votre définition de l'élégance ?
Mais l'élégance, c'est surtout le port L'élégance, c'est le port. C'est la femme qui fait l'élégance, pas un vêtement. C'est la femme, c'est son élégance, c'est sa façon de porter le vêtement, c'est la façon d'aller l'accessoiriser. On peut avoir une robe toute simple. Si vous avez un beau port de tête, ou une personnalité, c'est du moment. Mais je dis, c'est pas toujours le vêtement. Le vêtement et l'écrin. La mise en valeur, comme
c'est
le parfum,
l'écrin
n'est pas. Souvent, il y a des gens qui disent, je viens chez vous parce que je dois être élégante. Bon, je dis oui, il faut l'être. À la limite, si je puis dire, il faut l'être un peu à la base.
Vous leur dites pas ça.
Non, mais quand je dis chacun son élégance, parce que les femmes plus sportives, des femmes plus sophistiquées. Le tout, c'est de garder sa personnalité, mais je pense que l'élégance réside aussi bien dans la gestuelle que, dans la féminité, surtout.
Est-ce qu'il y a une femme française que vous aimeriez habiller? Une femme connue.
Mais je, dans les femmes connues, mais
notre première dame, par exemple.
Votre première dame, j'ai eu l'occasion de la rencontrer parce que nous avions eu un déjeuner quand il y a eu une visite d'État à Bruxelles et c'était vraiment bon, un beau souvenir parce que pour la petite anecdote, je dis à votre président, voilà, c'était Stéphane Bern qui me présentait et alors ça avait un côté assez convivial lors d'un dîner de gala, tout le monde en queue de pie et tout. Et puis, je dis au président, je dis, oui, nous sommes installés, mais est-ce que mon épouse connaît votre marque, votre produit? Mais j'ai dit, écoutez, de toute façon, nous sommes rive gauche. Hein. Il me dit, ah, vous n'êtes pas rive droite. Mais j'ai dit, non, mais j'ai dit, président, ce qui serait bien, au fait, est-ce que vous employez le rez-de-chaussée de l'Élysée? Parce que on pourrait peut-être y mettre un espace. Et puis, il me dit, écoutez, c'est pas passant, c'est pas une bonne idée. Et puis, il a appelé son épouse et qui est tout à fait charmante, mais oui, nous avons parlé de mode et tout, mais je pense que voilà, et elle appréciait parce que notre reine, notre souveraine était habillée en Nathan, puis bon, ben voilà, on avait pu échanger quelques mots, mais je pense qu'elle porte aussi les couleurs françaises, donc oui. Voilà.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Et longue vie à Nathan Couture.
J'espère, c'est gentil en tout cas de nous le souhaiter.
Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.